Actuelle de l'été 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Avec l'augmentation de la durée de vie, l'accompagnement des personnes en fin de vie devient un domaine d'intérêt public. Bien que ces questions touchent directement et indirectement de plus en plus de personnes, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans la prise en charge de la personne malade, de ses proches et des soignants. Si vous êtes un professionnel de la santé ou de l'accompagnement, ou si vous êtes directement concerné parce qu'un proche se trouve dans cette situation, vous allez apprendre des choses intéressantes dans cette présentation. Notre conférencière va partager avec nous son expérience dans le domaine de la prise en charge de la personne malade ou en fin de vie, et notamment de la manière dont elle intervient en complément de la médecine classique. Psychologue clinicienne, Yvette Hurguette consulte en cabinet libéral à Nancy, en France, et intervient aussi en milieu hospitalier. C'est un grand plaisir de t'accueillir pour la première fois au congrès virtuel d'EFT. Bienvenue Yvette.
Merci beaucoup Maria, bonjour à tous et merci pour votre invitation.
Alors Yvette, toi qui es une jeune femme vibrante de vie, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette prise en charge spécifique dans l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie?
Alors tout simplement, cet intérêt a commencé à se développer pendant ma formation de psychologue clinicienne, pendant un stage en institution pour personnes malades et dépendantes. Là, j'ai pu y observer vraiment très concrètement les difficultés de ces personnes malades, des familles, des soignants aussi, bien entendu, face à ces situations de vie si particulières. Il m'a semblé donc important à ce moment-là, dans un esprit de continuité, de me former en France, mais aussi dans d'autres pays comme l'Angleterre ou la Suisse, pour améliorer les conditions des prises en charge que je pouvais proposer à ces personnes, aux patients, aux soignants, aux familles, entre autres.
Ah oui, et pourquoi tu as choisi de te former dans d'autres pays?
Alors, malgré de belles évolutions dans la prise en charge de la fin de vie en France ces dernières années, comme on peut le voir avec la loi Leonetti, par exemple, dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y a encore du chemin à parcourir. Certains pays, comme ceux que j'ai cités juste avant, ont une réflexion, un intérêt plus ancien par rapport à ces prises en charge et peut-être une ouverture d'esprit différente quant aux moyens thérapeutiques et financiers à mettre en place pour aider ces personnes dans ces difficultés de la vie. Quoi qu'il en soit, depuis ces dernières années, tout de même, il faut bien reconnaître que l'accompagnement des personnes ayant une maladie chronique, lourde ou en fin de vie devient un domaine d'intérêt public en France, comme tu as pu le dire très justement. Il y a beaucoup à améliorer dans ces prises en charge particulières. À ce jour, j'essaie donc d'allier l'ensemble des connaissances que j'ai acquises tant au niveau théorique que pratique. Et c'est là qu'intervient l'hypnose, la cohérence cardiaque par exemple, mais surtout l'EFT, qui est une solution qui peut amener à un grand mieux-être.
Pour que tout le monde soit bien au clair, qu'est-ce qu'on entend précisément par soins palliatifs? Et quel vilain mot d'ailleurs? Est-ce que ça concerne uniquement la fin de vie?
Ah, je suis bien d'accord avec toi, Maria. Soins palliatifs, c'est un terme peu heureux et qui fait surtout terriblement peur. Les soins palliatifs sont en fait des soins actifs, délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale, et ce, dès l'annonce du diagnostic. La prise en charge palliative est une prise en charge, en fait, surtout confort. D'ailleurs, c'est comme ça que je présente ces soins aux patients. Ces soins ne sont pas uniquement proposés les dernières semaines de la vie. Cette prise en charge peut s'étaler sur plusieurs années et même parfois s'arrêter s'il y a rémission, par exemple. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques, émotionnelles et les autres symptômes gênants, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. L'accompagnement s'adresse donc aux malades en tant que personne particulière, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution, ainsi qu'aux soignants, bien entendu. Le malade est considéré comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. L'idée étant de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès, en proposant parallèlement un soutien aux proches pendant la maladie, mais aussi tout au long du travail de deuil. La mission, donc vous l'aurez bien compris, est d'apporter une aide, des outils thérapeutiques, bien sûr, un soutien, une écoute active aux malades, à l'entourage ainsi qu'aux soignants.
Que peut apporter l'EFT dans l'accompagnement de ces personnes atteintes d'une maladie lourde et dans le cadre de prise en charge en soins palliatifs ou soins confort, comme tu dis d'ailleurs. Première bonne nouvelle, les soins palliatifs, c'est vrai que moi ça me fait penser à un cul-de-sac, il n'y a pas d'issue possible. Merci d'avoir rappelé qu'on peut aussi en sortir, ça peut s'arrêter.
Oui, tout à fait. Non, puis c'est vrai que vraiment l'objectif, c'est un maximum de qualité de vie, le confort. Donc l'EFT vient aujourd'hui apporter des solutions très efficaces, que ce soit au niveau de la souffrance émotionnelle et psychologique, mais aussi dans l'aide au traitement contre la douleur, on y reviendra certainement, pour aider des personnes malades à garder une qualité de vie et à mettre de la vie jusqu'au bout de la vie surtout. Donc l'EFT peut apporter un soutien, une aide très efficace à toutes les étapes de la maladie.
Et tu disais dès l'annonce du diagnostic en fait.
Ah oui, en effet, à ce moment-là précis, il faut vraiment savoir, un choc très important, une sorte de cataclysme émotionnel qui se produit dans le cerveau de la personne. La vie bascule en quelque sorte, une multitude de pensées, de sensations, d'émotions se mélangent dans la personne. Ce choc peut même s'apparenter au niveau psychique à un deuil soudain, à un traumatisme. À partir de là, différentes étapes vont donc s'enchaîner, un état de sidération, par exemple, ce n'est pas possible, je fais un cauchemar. Un état de déni de certaines informations, par exemple après l'annonce d'un diagnostic de cancer pulmonaire, quand le diagnostic tombe, une personne peut très bien se dire « Ah, j'ai bien compris que j'étais malade, mais c'est encore cette grosse bronchite qui vient m'embêter ». Il y a aussi un moment donné où souvent les personnes ressentent de la colère, alors de la colère contre soi, de la colère contre le médecin qui n'a rien vu avant, de la colère contre la vie, un sentiment d'injustice aussi souvent. Je n'ai rien fait pour mériter cela, je suis pourtant une bonne personne, pourquoi ça m'arrive à moi? Il peut y avoir aussi une étape où la personne ressent beaucoup de culpabilité et toutes les conséquences, bien entendu, sur l'estime de soi. J'aurais dû arrêter de fumer, je suis un idiot, je mérite ce qui m'arrive. Des espoirs, des doutes, vais-je m'en sortir ou je vais sûrement mourir? Une recherche d'explication aussi. Pourquoi moi, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, etc., etc. Donc c'est vraiment plein de pensées, plein d'émotions qui se mélangent en même temps.
Et il y a eu l'année dernière toute une conférence consacrée sur le choc du diagnostic par Christine Dizan que vous pourrez retrouver dans le pack 2013. Et l'EFT peut aussi aider dans l'accompagnement des traitements médicaux, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce que vient l'étape évidemment après l'annonce du diagnostic où il y a des propositions médicales avec des traitements adaptés, hein, si traitement possible il y a. Donc dans ce cas, l'EFT peut venir en soutien contre certains effets indésirables de certains traitements comme des douleurs, des nausées liées à la chimiothérapie. Et bien sûr, il y a beaucoup de peurs rattachées autour de ces soins médicaux-là, donc des peurs des effets secondaires, vomissements, fatigue, perte de cheveux. L'EFT peut apporter plus de sérénité à la personne en traitement. Il y a souvent aussi beaucoup de croyances autour de ces traitements. Par exemple, je vais forcément être malade après la chimiothérapie. Mon ami Pierre n'a pas pu manger pendant 4 jours après sa ligne de chimio tellement il était nauséeux. Alors toutes ces convictions forcément enferment les personnes dans une sorte de carcan et formatent finalement l'esprit et le corps à fonctionner comme cela. Donc plus on les libère de ces carcans, plus on met les chances de leur côté pour qu'ils puissent avoir un minimum d'effets secondaires. Bien aussi, évidemment aussi, la recherche à un moment donné de soins, de soulagement psychologique et émotionnel. Et vous pensez bien que l'EFT a ici une action vraiment très prégnante. Il est important de vérifier que le patient ait vraiment un maximum de pensées saines, d'émotions saines. Donc vérifier avec lui toutes les émotions justement polluantes, éprouvantes, les images mentales négatives, les convictions limitantes, les expériences de vie aussi en lien avec la maladie plus ou moins directement. Par exemple, je me vois déjà décédée, j'imagine déjà la tristesse de mes proches, je suis un boulet pour ma famille, je les mets en souci. Il y a aussi fréquemment la période où le patient part à la recherche de raisons, d'origine de la mise en place de la maladie. Donc là, on peut se servir par exemple du protocole de paix intérieure qui est un outil fort adapté pour nettoyer tous les événements de la vie potentiellement activateurs de perturbations émotionnelles et physiologiques. Par exemple, une femme qui aurait été licenciée il y a quelques années de cela et qui qui pourraient penser qu'il y aurait un lien avec la mise en place d'une perturbation du système immunitaire. On pourrait travailler, même si je me sens encore moins que rien depuis que mon patron m'a licencié il y a 2 ans, je m'aime et je me respecte totalement. Voilà.
Mais cette utilisation, cette recherche d'événements qui ont peut-être contribué à la situation actuelle, c'est surtout pour vivre cette période plus confortablement pour les personnes qui ont besoin de savoir. Ce n'est pas forcément dans un but de guérison ou d'acte miracle.
Ah non, 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 bien entendu. Non, non, l'idée, c'est vraiment un maximum de mieux-être, parce qu'on sait aussi que plus la personne se sent sereine et en paix intérieure, on va dire plus elle peut tendre vers un maximum de santé, de confort interne, mais bien entendu, l'objectif est là d'une sérénité émotionnelle et d'un nettoyage de ses expériences de vie du passé.
Mmh. Alors justement, dans ton expérience, est-ce que tu peux donner quelques exemples précis de ce genre de croyances et de convictions qui peuvent influencer négativement le confort ou l'éventuelle guérison de la personne malade? Parce que bon, on peut quand même se préserver cet espoir-là.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les convictions peuvent être diverses et variées. Par exemple, on trouve des convictions sur la maladie. Alors, je vous donne quelques exemples. Je me souviens d'une personne qui était convaincue que la fibromyalgie, par exemple, personne ne s'en libère après avoir lu certains sites internet. Ou alors, le cancer de la peau, personne ne réchappe de cette maladie. Des convictions sur soi-même aussi. Je n'ai jamais de chance dans ma vie, je suis fragile, j'ai toujours tout raté, donc forcément je vais passer à côté de ma guérison. Des convictions liées aux expériences de vie, je connais une personne qui avait pourtant un cancer du côlon que l'on dit facilement soignable et qui est décédée 8 mois après, donc il ne me reste plus longtemps à vivre. Ou alors ma voisine est morte de la sclérose en plaques, il n'y a forcément que cette finalité. Des convictions intergénérationnelles aussi. Ce cancer, c'était sûr que j'allais l'avoir, tous les hommes de ma famille le développent la plupart du temps. Et puis des convictions qu'on pourrait dire de comptoir, entre guillemets, c'est-à-dire si on m'opère, si on m'ouvre le ventre, le cancer va forcément s'enflammer et se répandre partout dans mon corps. Toutes ces convictions, vous l'aurez bien compris, sont évidemment malsaines, dans le sens où elles ne sont pas de l'ordre de la réalité réellement, elles sont de l'ordre de la réalité du patient, souvent alimentées par des expériences de vie du passé ou toute une éducation. Elles ne sont pas bonnes ni pour la qualité de vie, ni pour la santé de la personne. Elles ne permettent pas à la personne de se libérer de ses conflits les plus profonds et encore moins d'atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme. Et encore moins de se sentir telle qu'elle a envie de se sentir. Il est important donc d'accompagner la personne à se dégager de ses croyances limitantes pour ouvrir d'autres champs de possibilités.
Oui, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que la réalité émotionnelle de la personne influe sur la réalité cellulaire. Donc il est important de prendre soin de ses pensées et de ses croyances en ces moments-là.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, quelqu'un qui se trouve en fin de vie ou confronté à une maladie grave, est-ce qu'il a vraiment envie et l'énergie d'entreprendre ce genre de travail?
Alors, ce qui est fort surprenant, c'est que oui, c'est la plupart d'entre eux, oui. C'est un moment, finalement, où les faux semblants tombent. C'est une période où souvent les personnes font un bilan de leur vie. C'est un moment où le temps s'arrête un petit peu. Les personnes ont finalement plus de temps pour eux, pour se donner davantage d'autorisation aussi à se centrer sur eux, à penser, à réfléchir sur eux. Certaines priorités de vie s'inversent aussi. Il s'opère une sorte de retour à l'essentiel et c'est vraiment intéressant et très précieux. Et face à la perspective d'une mort éventuelle ou alors d'une perte de capacité aussi qui s'approche, la pulsion de vie s'intensifie pour faire face à la situation, prendre sa place. Et même finalement derrière des symptômes dépressifs ou des angoisses, ces deux forces internes ne sont pas forcément antagonistes.
Mais j'imagine que ce n'est pas si simple de parler de la mort, de la douleur et du handicap. Ce sont des domaines où il y a beaucoup de tabous.
Ah là là, oui, effectivement. C'est pour cela que c'est vraiment très important en tant que thérapeute d'être vraiment au clair avec soi-même, avec la vie, avec la mort, la maladie, mais aussi le sens que l'on porte à son travail. Si le travail entrepris sur soi n'est pas suffisant, le thérapeute, mais aussi le soignant, le bénévole aussi, bien entendu, qui a rarement plus de 2 années de pratique dans ces services spécifiques, on retrouve dans ces services un des plus forts taux de turnover. Plus les soignants ou aidants sont formés, plus ils ont fait un travail sur eux et plus, bien sûr, ils maîtrisent les outils de gestion émotionnelle comme l'EFT, plus ils sont en mesure d'aborder leur travail auprès de personnes malades sereinement. et sur la durée. Plus le soignant est serein, plus le patient l'est aussi, plus la famille se sent sécurisée. Mais ce qui est certain, c'est que nous leur apportons de toute façon uniquement ce qui leur fait du bien. Notre retrait, parfois, est même une réelle action, puisqu'ils ont le droit, bien entendu, de refuser notre présence, notre accompagnement. Malgré ces outils formidables comme le EFT, il est quand même de bon ton d'éviter de se prendre pour le sauveur tout-puissant. Nous, thérapeutes, nous faisons juste finalement partie du menu à la carte des soins que le patient ou la famille a à sa disposition. Même si je vous l'accorde, c'est pas forcément si facile de savoir que le EFT existe et pourrait apporter un grand soulagement, un bien-être à bien des niveaux et de se retrouver face à un refus du patient. C'est là aussi vient le travail sur soi pour être dans une grande humilité. Le EFT est encore à ce jour trop peu connu et peut paraître étrange, trop simple pour être efficace parfois. Donc il faut aussi faire face à certains refus ou en tout cas savoir prendre le temps de prendre le temps avec le patient pour expliquer l'outil, les possibilités en douceur, avec beaucoup de douceur et beaucoup de cœur. Et il arrive aussi parfois que l'introduction de la technique EFT par un médecin permette aux patients d'appréhender l'outil avec plus d'ouverture d'esprit.
Tu parlais justement des bénévoles et des soignants. Donc, comment ils peuvent bénéficier de l'EFT pour aider dans cette pratique et pour leur soutenir dans ce travail qui peut être extrêmement lourd?
Oui, et même si les acteurs de cette prise en charge sont souvent des personnes passionnées qui trouvent beaucoup de sens dans leur travail, la confrontation quotidienne à la maladie, la souffrance physique, psychique, la mort, le handicap peut devenir rapidement éprouvant s'ils n'ont pas en leur possession des outils efficaces de libération émotionnelle. L'intérêt de l'EFT réside aussi dans le fait qu'il est utilisable en individuel comme en groupe. Parce que nous trouvons parmi les soignants ou les bénévoles différents profils. Il y a le soignant qui préfère par exemple une démarche discrète et individuelle avec le thérapeute de l'institution ou à l'extérieur de l'établissement. Et parallèlement, on trouve le soignant qui a des difficultés à entreprendre une démarche individuelle avec le thérapeute, que ce soit par pudeur, par honte de demander une aide, un accompagnement. Ou le soignant qui a même des difficultés à penser à utiliser l'EFT sur lui-même, même s'il en a la maîtrise, parce que finalement, ce n'est peut-être pas forcément une pratique qui est passée en mode réflexe, comme se brosser les dents plusieurs fois par jour. Donc, il y a certains soignants qui n'y pensent pas, même s'ils ont pu bénéficier de l'intérêt de l'EFT par ailleurs. Dans ce cas, un accompagnement en groupe est préférable. En institution, donc, il est intéressant de pouvoir proposer des solutions à la carte, soutien individuel ou en groupe. Il y a aussi un cas un petit peu intermédiaire, on va dire, du choc traumatique institutionnel, comme lors d'un suicide en institution. Je me souviens du traumatisme ressenti par des soignants d'une maison de repos suite à une défenestration d'une patiente à qui on venait d'annoncer un cancer du pancréas. Alors évidemment, vous imaginez bien, état de choc, de sidération, culpabilité des soignants, de ne pas avoir pensé éventuellement à cette possibilité, de la colère aussi vis-à-vis de la patiente, des remises en question nombreuses, tant d'émotions que de pensées envahissantes qui émergèrent à ce moment-là. Donc face à cette situation, la cohésion de groupe fit émerger une réelle demande collective de débriefing post-traumatique, une demande commune de désactivation de trauma. Quel que soit le moment, les événements, et ceci même dans un quotidien médical qui pourrait pour certains paraître ordinaire, pas forcément loin de là, le rôle du thérapeute est là encore d'avoir vraiment un regard vigilant sur les premiers signes de souffrance professionnelle et d'adapter sa communication afin de proposer le plus justement possible à ses soignants l'aide de l'EFT, par exemple.
Tu disais que parfois les personnes sont un peu réticentes, ils trouvent que c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour une première intervention auprès d'une personne malade ?
Alors, bien sûr, en mettant un point d'honneur à respecter le rythme et les besoins de chacun, il est vrai quand même qu'idéalement, présenter l'EFT, apprendre l'EFT ou accompagner la personne avec l'EFT devrait être proposé rapidement après l'annonce du diagnostic de la maladie ou du handicap, pour permettre aux patients justement d'acquérir aussi un maximum d'autonomie dans leur pratique de l'EFT. Il est intéressant de pouvoir se donner le temps d'expliquer le fonctionnement aussi des émotions, le fonctionnement de certains processus du cerveau humain face à des situations particulières potentiellement difficiles à vivre.
Comment tu t'y prends pour présenter le concept? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des passerelles à employer pour que le message passe mieux?
Alors, j'essaie de fonctionner par mots-clés, par exemple par les distress et puis dans un second temps les émotions. Alors, le stress, pour commencer, j'essaie de leur faire comprendre les origines, les mécanismes du stress. Une certaine compréhension peut leur permettre plus facilement de le canaliser. Cela va aussi leur permettre par la suite d'adopter la méthode EFT afin de gérer des états de stress et d'améliorer la prise en charge de leur état d'être. Dans les grandes lignes, en général, ce que je propose comme explication, c'est que le stress est une réponse à notre organisme à un agent extérieur. Le but est de mettre notre organisme en position de défense ou de protection. En général, lorsque le danger est écarté, notre organisme reprend son état d'équilibre. Cependant, s'il est trop souvent ou trop longtemps, ou si on utilise stressé ou si on utilise des stratégies inefficaces pour gérer ce phénomène, alors l'organisme perd progressivement sa capacité de retour à son état initial et reste en état d'alerte perpétuelle, ce qui, à force de pression, finit par l'empêcher complètement de réagir. Et à ce moment-là, le burn-out émotionnel est souvent proche. D'où l'importance d'identifier nos indicateurs de stress pour pouvoir les repérer et agir dès les premiers signes. Alors, voilà des petits exemples simples, des signes physiques comme des tensions musculaires, des troubles digestifs, palpitations, besoin d'uriner fréquemment, moiteur des mains, des signes psychologiques, troubles de la concentration, idées noires, mauvaises images de soi, vulnérabilité aux critiques, découragement, désintérêt, passivité, fatigue, et des signes comportementaux aussi, troubles du sommeil, consommation accrue de cigarettes, de nourriture, agitation, colère, tics nerveux, ou des signes émotionnels, irritabilité, tristesse, anxiété, perte de confiance, perte du respect de soi. Il y a aussi une fonction vraiment de signal d'alarme, donc il est important d'en prendre conscience et de repérer notre seuil de tolérance pour éviter, et même dans l'idéal, ne jamais dépasser ce seuil de tolérance. Et ensuite, comme vous le disiez, effectivement, il y a le concept des émotions et leur rôle. L'objectif étant de faire le tri dans nos émotions. En fait, une émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. Toutes les émotions sont bonnes à ressentir par moment et ponctuellement. La joie, bon, vous le savez bien, permet de métaboliser le bonheur. La tristesse peut participer au mécanisme de deuil. La peur signale le danger et met dans un état de vigilance. La colère permet de nous défendre nos droits, de nous faire respecter. Donc finalement, elles sont toutes bonnes à ressentir, elles ont toutes leur utilité, mais du moment où elles vous sont utiles, où elles vous servent à quelque chose, et donc du moment où elles sont adaptées à la situation. Une émotion est en fait comme une sorte d'énergie produite en nous. Si elle est mise dans une action constructive et qu'elle est ressentie comme saine et pas trop inconfortable, alors on va dire que l'émotion est bonne. Si par contre l'énergie n'est pas mise dans une action constructive ou qu'elle est trop inconfortable, alors l'énergie tourne en boucle en nous et perturbe nos fonctionnements. J'essaie d'accompagner donc les patients à repérer une émotion utile et à penser à évacuer les autres avec l'EFT pour se libérer vraiment et retrouver un état d'être le plus confortable possible au regard de la situation, bien sûr. Je pense à un patient, par exemple, qui avait un cancer des ganglions, submergé d'une part par une grande colère contre son ex-femme, une colère en fait qui était alimentée par la conviction que leur conflit pendant la procédure de divorce était à l'origine du déclenchement de son mauvais état de santé. Alors que ce stress est un lien ou non avec la maladie ne change pas le fait, en fait, que cette colère à cet instant précis n'était pas utile, dans le sens où elle n'est pas constructive, car cette colère ne lui permettra jamais de toute façon de revenir dans le passé pour mettre en place d'autres actions envers son ex-femme ou travailler à optimiser sa gestion émotionnelle à ce moment-là de sa vie. Non, donc cette colère, à ce propos, le desservait à ce moment-là précis et était donc inadaptée compte tenu de la situation. Donc, à évacuer avec l'EFT. Et dans les ressentis de ce monsieur, on pouvait par contre, là parallèlement, trouver une colère vis-à-vis de son oncologue, qui était un monsieur fort compétent, hein, ce n'était pas le souci, mais on va dire peu psychologue et peu enclin à écouter les interrogations et les inquiétudes de ce patient. Or, ce monsieur avait vraiment besoin d'une écoute et de réponse à ses questions. Donc, cette colère, finalement, à ce moment-là, contre cet oncologue, lui a permis, a été, on va dire, le moteur du courage et de l'énergie dont il a dû faire preuve pour demander à changer de médecin dans la structure qui le prenait en charge. La colère s'est envolée d'elle-même une fois qu'il a trouvé le médecin, l'oncologue qui lui convenait. Par contre, si aucun changement de médecin avait été possible, il aurait été important de l'aider à évacuer cette colère vis-à-vis de cet oncologue, afin qu'il puisse avoir un angle de perception qui lui permette d'établir un lien de confiance avec son médecin et de pouvoir apprécier à sa juste valeur ses compétences médicales.
Oui, il faut bien faire la part entre l'émotion qui a peut-être été à l'origine de la maladie ou du problème, effectivement, et les émotions que peuvent vivre les patients à ce moment-là. Et il y en a qui peuvent être plus ou moins utiles, effectivement, à la guérison, en tout cas, ou au bien-être sur le moment.
Oui, et c'est vrai que, la boussole interne qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous dirige quand même instinctivement vers plus de confort, est un indicateur intéressant pour faire le tri dans nos émotions.
Alors, j'imagine que tu dois travailler parfois avec des patients qui ne sont plus en mesure de s'exprimer ou de bouger. Et comment est-ce qu'on peut continuer malgré tout à aider ces personnes avec l'EFT?
L'idéal, effectivement, c'est d'avoir établi un lien de connaissance et surtout de confiance avec le patient avant que son état se complique, de sorte que dans ce cas-là, je puisse avoir finalement les événements, les circonstances ou l'état physique qui pourrait être source pour ce patient de stress, d'angoisse, de peur ou de souffrance quelconque. Donc dans ce cas-là, je peux me synchroniser sur son psychisme et pratiquer sur lui ou éventuellement sur moi des points de stimulation en exprimant ce qui me semble être ce qu'il pourrait avoir sur le cœur, en précisant bien sûr qu'il se sente tout à fait libre de prendre pour lui les phrases, les pensées, les ressentis qui lui sont adaptés. En fait, dans ce cas-là, on fait juste au mieux en tant que thérapeute, et je pense que les bonnes intentions sont essentielles et font déjà beaucoup dans ces moments-là.
Oui, bien sûr, la personne va sentir les bonnes intentions, il va sentir l'attention qui lui est accordée, et déjà ça, c'est un beau cadeau.
Je pense.
Et la famille et les proches dans tout ça, Yvette?
Ah oui, ça c'est important.
C'est un gros chapitre.
C'est un gros chapitre, effectivement, et l'EFT est là aussi un outil bienvenu, parce que les proches ont vraiment tout intérêt à avoir accès à une technique de gestion émotionnelle efficace. La position d'aidant, en fait, n'est pas forcément plus simple à vivre que la position de patient. Les aidants vivent aussi le choc de l'annonce du diagnostic, et en plus que de vivre ce choc, ils se mettent finalement tout de suite en situation de soutien de la personne malade, en tentant d'apaiser, d'accompagner les réactions, les émotions. Et les proches viennent naturellement enfouir leurs ressentis, jusqu'à parfois les nier. Il est fréquent d'observer de la culpabilité chez eux s'ils se laissent aller à un moment émotionnel où ils sont centrés sur eux, comme s'ils n'avaient pas ce droit-là, comme si leur souffrance n'était pas légitime en regard du vécu de leurs proches souffrants. Et parallèlement, on peut observer dans certains moments de solitude ou même post-deuil un craquage émotionnel, une abréaction qui les laisse souvent très démunis. Il peut être important en tant que thérapeute d'expliquer aux proches aussi l'importance de penser à eux, de prendre soin d'eux, d'accueillir leurs émotions, leurs pensées, pour mieux être aussi en mesure avec l'EFT d'avoir une action sur eux-mêmes, éventuellement d'accompagner leurs proches et surtout de faire un libre choix quant à ce qu'ils ont envie de ressentir ou non. Il peut être là aussi important de leur apprendre à faire la différence entre les émotions utiles ou celles qui les desservent ou non, celles qui sont adaptées ou non. Par exemple, on pourrait stimuler sur même si quand je m'imagine dans ma maison sans mon mari après son départ, je me sens angoissée et que je me dis que je ne pourrai jamais m'en sortir seule, je m'aime et je m'accepte profondément et c'est peut-être bien normal d'avoir peur de l'inconnu. Voilà, donc on peut autant travailler sur les émotions ressenties dans le présent que sur des projections angoissantes pour le futur. Il est aussi important de guider les proches dans l'enchaînement aussi du traitement émotionnel, de les guider dans cet enchaînement-là. Je me souviens d'une dame qui avait une sclérose en plaques en phase terminale, dont le mari était en grande souffrance face à la fin de vie de sa femme, et il avait choisi de travailler à apaiser ses émotions face à l'image de sa femme qui était aphasique, dans une rigidité motrice, dans un lit médicalisé à domicile. Donc il avait évacué toutes ses souffrances de la voir comme cela. Et une fois plus serein, en fait, il s'est retrouvé face à un gros sentiment de culpabilité et de colère envers lui-même, même de s'être autorisé à devenir aussi confortable face à l'état de souffrance de sa femme. Il aurait peut-être pu être intéressant, du coup, de travailler en premier lieu sur l'autorisation de vivre plus confortablement auprès de son épouse, afin que ce monsieur s'épargne cette culpabilité éprouvante. Bon, dans tous les cas, l'EFT et était encore là pour le libérer pleinement et ainsi pouvoir accompagner son épouse avec plus d'énergie, de bonnes vibrations et par voie de conséquence rassurer sa femme, consciemment ou inconsciemment, et de lui donner l'autorisation de partir plus librement avec moins de culpabilité, de laisser son mari dans un état de profonde tristesse. Vous l'aurez bien compris, se faire du bien à vous, aidant, viendra aussi soulager votre proche malade qui, dans ces périodes particulières, sont encore beaucoup plus sensibles, comme je disais, consciemment ou inconsciemment, aux émotions de l'entourage. Ils captent encore plus facilement. Donc les blocages que peuvent rencontrer un proche de personnes malades sont, par exemple, la peur de parler de la mort, la peur de dire leurs sentiments, combien de personnes n'osent pas dire « je t'aime » à leur proche malade, peur de l'après, peur de craquer physiquement, émotionnellement si la maladie dure trop longtemps, peur de ne pas être présent au moment du décès. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et prendre le temps avec l'aidant, et quelque chose de très, très, très important.
Oui, le droit de continuer sa propre vie et lutter contre la culpabilité, comme quoi il faudrait que ma vie s'arrête pour que j'aide ma mère qui est malade.
Oui.
Ça peut être très lourd. Tu travailles aussi avec des personnes dans ce cadre et qui sont confrontées à l'angoisse de la mort, forcément.
Oui, il y a beaucoup d'angoisse de mort dans ces moments-là de la vie. Alors, l'angoisse de mort, c'est quelque chose d'un petit peu particulier à travailler. La difficulté avec ce genre d'angoisse, c'est l'aspect trop vaste et non spécifique. C'est-à-dire que le risque de travailler sur ce concept-là, c'est de ne pas être suffisamment précis pour être efficace et libérateur, même avec un outil comme l'EFT. Donc vraiment, la première question, c'est sur quoi travailler précisément? Que se cache-t-il derrière l'angoisse de mort? Est-ce que c'est la peur de la douleur? Est-ce que c'est la peur du moment où ça s'arrête? C'est la peur d'être seul à ce moment-là? L'angoisse du rien après la mort? La crainte d'aller en enfer pour les personnes croyantes qui porteraient une culpabilité liée à des actions de vie? La crainte que leurs proches vivent mal la perte ou gèrent mal l'après? Les angoisses, les peurs, les appréhensions peuvent être vraiment diverses et variées là encore. Prendre un temps pour trouver la bonne cible, la vraie origine de la peur, n'est pas une étape à négliger, même si on est bien d'accord qu'il y aura certainement une évolution sur la cible au fur et à mesure du traitement émotionnel, mais tout de même. Donc, on va prendre un exemple, j'essaie d'être un peu plus claire. Je me souviens d'un monsieur qui était un ancien militaire, un ancien commando, qui souffrait d'un cancer terminal du pancréas. Donc ce monsieur qui avait été vraiment formaté toute sa vie professionnelle à nier la souffrance, à être battant face aux épreuves de la vie, se trouva vraiment en difficulté face à sa santé qui se dégradait rapidement. Le combat, pour la première fois de sa vie, me dit-il, était perdu d'avance, il était submergé d'angoisse de mort. Après quelques échanges avec beaucoup d'humilité, il m'avoua qu'il était submergé d'angoisse d'être dans ce non-contrôle de son histoire de vie. Contrôler ses émotions, sa survie finalement, avait été une des plus grandes fiertés de sa vie et avait construit toute sa vie. Il se sentait réduit à néant et complètement dévalorisé de ne plus pouvoir contrôler et diriger son chemin de vie. Nous avions donc en premier lieu à travailler sur, même si en ressentant la maladie en moi m'envahir, j'ai l'impression de ne plus être que l'ombre de moi-même et que je me transforme en chochotte et que ça me met en colère et que ça m'angoisse terriblement, je m'aime et je m'accepte profondément. En travaillant sur cette cible, son cerveau nous a amené à des cibles de l'enfance où son père, strict, un homme assez violent, ne lui a pas laissé la place aux émotions. Dans ses angoisses de mort, il m'avoua ensuite qu'il y avait des peurs, très peur de souffrir physiquement. Il s'imaginait, il avait des images mentales comme ça, il s'imaginait se tordre de douleur abdominale et presque mourir d'épuisement. Et ce, malgré le discours médical rassurant quant à l'adaptation des traitements antalgiques disponibles afin de préserver cela, de cela. Nous avons donc travaillé sur, même si je suis convaincue que le médecin me ment et que je vais souffrir terriblement au fur et à mesure de la maladie, cela me fait peur. Je m'aime et je m'accepte profondément et c'est bien normal d'avoir peur de souffrir.
D'accord. Et ces rondes de EFT ont pu apporter un apaisement pour ce monsieur ?
Oui, tout à fait. Alors, à la fin, finalement, il a été dans une ouverture, une potentialité quant à la véracité du discours médical. Et finalement, oui, il est venu se soulager de lui-même et retrouver un climat de confiance, d'écoute vis-à-vis du discours médical. Et j'ai pu en plus en profiter pour lui montrer l'utilité de l'EFT dans le traitement des symptômes douloureux. Donc, on a aussi travaillé forcément à nettoyer certains moments de sa vie où le monsieur avait enduré aussi des souffrances physiques pour libérer les souffrances même physiques et la charge émotionnelle rattachée à ces souffrances du passé pour déjà se décharger d'un tiers de ses douleurs présentes. Libérer ces sensations-là, le monsieur a pu être bien plus apaisé, bien plus dans la confiance et le lâcher prise, et il fut vraiment heureux de voir là aussi qu'il pouvait encore être et encore avoir une action sur ses sensations. Au moment de sortir de sa chambre, d'ailleurs, je me souviens, il a dit « Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à former mes collègues de l'armée, parce qu'ils sont durs à l'extérieur, mais souvent chamallows en dedans. » Donc j'ai trouvé ça très,
voilà,
très chouette.
Voilà, à bon entendant, il faudrait proposer des formats voilà. OFT aux légionnaires voilà. Et à l'armée.
Ah oui.
Je sais qu'il y a déjà des personnes qui travaillent avec des pompiers et des gendarmes, qui voient effectivement beaucoup de situations traumatisantes au quotidien. Oui.
Donc à développer.
Oui, 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 tout à fait. Alors, pour conclure cet entretien, Yvette, est-ce que tu peux nous proposer une façon pratique et on va faire une ronde de tapping pour les personnes qui souffrent d'un décès? Parce que soins palliatifs, souvent, quand même, ça se solde par un décès, par un départ. Et comment accompagner le deuil de ceux qui restent?
Pour vraiment aider quelqu'un en deuil, il est déjà important de comprendre ce que cette personne est en train de vivre. En effet, beaucoup de personnes ont des idées complètement fausses sur les besoins réels d'une personne en deuil et ils ignorent toute la réalité du processus de deuil. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Cette méconnaissance risque de vous conduire à faire des erreurs qui peuvent blesser involontairement alors que vous pensiez faire du bien. Que vous soyez thérapeute, proche d'un aidant en deuil, la personne que vous accompagnez traverse des bouleversements dont on a tous du mal à imaginer la profondeur quand on n'a pas vécu cela. Dans les mois à venir, cette personne va avoir des émotions, des comportements que vous allez peut-être juger inhabituels ou anormaux. Par exemple, besoin de parler sans cesse de la personne disparue, besoin de mettre partout ses photos, de porter ses vêtements. Le fait de souffrir d'une culpabilité démesurée à vos yeux, bien entendu, ou d'éprouver de la colère, ou encore d'être plongé dans une détresse qui semble sans limite. D'un autre côté, la personne peut aussi vous paraître tout à fait calme et souriante, elle va au cinéma, accepte d'aller dîner chez des amis. De là, vous pouvez facilement vous imaginer que finalement, elle ne va pas si mal que ça, et que 6 mois après le décès de la personne qu'elle aime, elle est déjà en train de reprendre le poil de la bête. La réponse est claire et nette. Si la personne endeuillée n'a pas utilisé des outils de gestion émotionnelle efficaces comme l'EFT, par exemple, c'est totalement faux. Dans l'immense majorité des cas, ce que vous montre cette personne est une façade. Elle ne veut pas déranger, elle ne veut pas faire peser sa peine sur vous. Mais la réalité est qu'elle est dans une souffrance et dans une détresse que vous avez réellement du mal à concevoir si vous n'êtes jamais passé par là vous-même. Comprenez que toutes ces émotions et tous ces comportements sont strictement normaux, mais ce n'est pas pour cela que l'on ne peut rien faire pour apaiser et soulager la personne endeuillée. Le besoin le plus fondamental d'une personne en deuil est de parler de la personne qu'elle a perdue, de parler de ses ressentis. Ce besoin va être présent en elle pendant très longtemps. Apprendre l'EFT à cette personne en souffrance va lui permettre de l'employer pour aider son cerveau à faire plus rapidement son travail de deuil. L'EFT va aider la personne endeuillée à s'autoriser à parler du défunt, de ses sentiments, à travailler sur la culpabilité, la colère, le sentiment d'injustice, etc., etc. Que ce soit même en parfaite autonomie ou du coup pour travailler à s'autoriser à en parler un peu plus facilement à ses proches. L'EFT va permettre de nettoyer aussi toutes les images mentales négatives liées au défunt, empêchant le proche de se ressourcer à travers des moments agréables du passé. Cela me fait penser à une dame qui était venue me voir au cabinet et qui était encore en plein deuil de son mari décédé. Il y avait de ça plus de 10 ans, me semble-t-il, alors qu'elle était tout à fait consciente, intellectuellement parlant, de toutes les merveilleuses années qu'ils avaient passées ensemble, mais elle n'avait pas d'accès à aucune image ou moment positif rattaché à ces années de bonheur. Seules les images de son mari amaigri, dans le coma, sur son lit à l'hôpital, envahissaient son esprit. Nous avons travaillé sur ces images perturbantes avec des phrases de préparation qui ressemblaient à celles-ci. Donc même si je suis envahie par cette image de lui qui me fait encore terriblement souffrir à 9 sur 10 et que je me dis que je n'aurai plus jamais accès à des pensées heureuses concernant mon mari, je m'aime et je m'accepte totalement. Après quelques rondes qui ont apaisé l'intensité de sa souffrance, après un retour sur l'image de son mari sur son lit d'hôpital, c'était devenu beaucoup plus confortable, mais par contre était venu à ce moment-là un sentiment de culpabilité. Donc, même si je culpabilise si fort d'avoir cette image dégradée de lui alors qu'il était si attaché à son image d'homme fort et sécurisant que j'ai l'impression de le trahir, je m'aime et je me respecte totalement. Après quelques rondes, la culpabilité s'est envolée, l'image avait presque disparu et il lui était difficile de faire revenir d'autres images que celles liées à leur moment de bonheur avant la maladie. Nous avons encore fait quelques rondes pour peaufiner et la dame a pu parachever son travail de deuil tranquillement. Donc si vous êtes dans cette situation où vos pensées sont encore trop imprégnées d'images liées à la maladie, on peut faire ensemble par exemple.
Mm-hmm. Je vais répéter les phrases avec toi.
D'accord.
Et voilà, j'invite toutes les personnes à se connecter à un deuil récent ou pas, ou si on a la chance de ne pas avoir vécu ça, on peut le faire pour un proche aussi.
Même si je suis envahie par cette image de la maladie. Qui me fait encore tellement souffrir dans mon cœur et dans mon corps. Que je me dis que je n'aurai plus accès à ces pensées heureuses. Je m'aime et je m'accepte profondément. Et c'est bien normal d'avoir été marqué par ces moments difficiles. Même si je suis envahie par cette image de la maladie. Je m'aime et je m'accepte totalement. On peut le refaire encore une fois ?
Oui, oui.
Même si je me sens envahie par toutes ces images. Qui me font souffrir dans mon cœur et dans mon corps. Que je n'arrive pas à dépasser cela. Je m'aime et je me respecte totalement. Sur le haut de la tête. Cette
image qui m'obsède.
De la personne que j'aime. Malade. Ce moment qui me revient sans cesse à l'esprit. Même dans mes rêves. À chacun de mes réveils, cette image dans ma tête.
On change de point, Yvette ?
Ah oui, on change de point, pardon.
Sur le sourcil. À chaque réveil, cette image dans ma tête.
Extérieur des yeux. Ce moment où il était si mal. En dessous des yeux. Je suis encore angoissée quand j'y repense. En dessous du nez. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Le mensonge. C'était tellement éprouvant. Au-dessus de la poitrine. Je porte en moi encore toute cette tristesse quand j'y repense. En dessous de la poitrine. C'est peut-être normal que mon cerveau ait besoin de travailler sur ces images. En dessous des bras. Je ne peux pas m'autoriser à me libérer de ce mal-être. Le pouce.
Je n'ai rien pu faire.
L'index. C'est ma façon à moi de lutter contre ma culpabilité, de ne pas avoir pu le sauver. Le majeur. Une partie de moi ne croit toujours pas ce qui s'est passé. L'auriculaire.
Je peux peut-être me soulager de ces pensées douloureuses.
Point karaté. Même si je ne suis pas tout à fait prêt à couper le lien perturbant qui me rattache à lui. Point gamme. Je prends conscience que le lien le plus fort est cette bonne énergie quand je pense à lui. On reprend au niveau de la tête. Je peux peut-être me permettre de nous libérer tous les deux de ce passé douloureux. Sourcil. Même si je ne sais pas trop comment cela peut se faire.
même si je ne sais pas trop comment cela peut se faire.
Extérieur des yeux, c'est difficile encore.
C'est difficile encore.
En dessous des yeux, je peux choisir maintenant de m'ouvrir à nouveau à ces bons souvenirs en commun.
Je peux choisir maintenant de m'ouvrir à nouveau à ces bons souvenirs en commun.
En dessous du nez, on a passé tellement de bons moments et ces bons moments sont immortels.
On a passé tellement de bons moments et ces moments-là sont immortels.
Je propose de bien respirer.
Oui. Et bien sûr, si ça n'a pas soulagé tout le deuil, toute la douleur, continuez tranquillement à tourner sur les poings. Mettez sur pause si vous avez besoin, refaites les rondes. Et nous, on va conclure ce vaste sujet. Effectivement, comment peut-on conclure là-dessus, Yvette?
Ah, alors, moi je vous propose de vous donner une petite indication qui mérite une certaine réflexion. Il est intéressant de savoir que le deuxième rapport de l'Observatoire national de la fin de vie montre que 80% des Français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux. Mais seulement 25% des décès surviennent à domicile. Ce qui fait que la France est l'un des pays européens, où l'on meurt le moins souvent à domicile. L'accès aux soins médicaux reste donc à améliorer à la maison, mais aussi, il a été souligné que les causes d'une hospitalisation pas forcément désirée à l'origine, justement, étaient aussi dues à un burn-out des aidants à domicile, mais aussi de trop grosses angoisses du patient chez lui. Le EFT peut être une solution efficace pour agir du côté du psychique et faire évoluer ce décalage de pourcentage entre le souhait des personnes malades et la réalité des faits. Ce décalage de pourcentage qui n'a d'ailleurs pas évolué malheureusement depuis 1990, donc peut-être que le EFT va pouvoir faire changer ces données-là à l'avenir, je le souhaite.
Mais oui, bien sûr, nous aussi, c'est notre plus grand souhait, Yvette. Merci beaucoup pour ces pistes que tu as partagées aujourd'hui.
Ah, mais c'était un grand plaisir.
Et merci à toi d'œuvrer justement pour faire connaître le EFT en milieu hospitalier et ailleurs, aussi à travers tes émissions télévisées qui permettent de faire connaître ces pratiques-là. Et on va retrouver nos auditeurs dans le chat pour les questions-réponses dans quelques instants.
À tout de suite.
Merci, Yves.
Voilà, le chat est ouvert. Alors, pardon, est-ce que tu peux voir les questions?
Alors oui, j'en ai quelques-unes, même pas mal du tout. Alors,
on va pas pouvoir répondre à tout, mais voilà.
Alors, par exemple, puis elle défile, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Comment aborder un patient qui est totalement renfermé? Comment lui présenter l'EFT? Alors, comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut appréhender ces situations avec beaucoup d'humilité. C'est vrai que dans beaucoup de cas, malheureusement, on ne peut faire que proposer, expliquer tranquillement, pourquoi pas montrer un exemple sur soi-même. Parfois, un exemple au niveau du traitement de la douleur peut être un bon moyen d'entrer en communication. Et j'ai presque envie de dire, souvent chez les hommes, c'est peut-être un moyen d'approche peut-être un peu plus simple que de présenter tout de suite l'EFT dans un but d'aider au niveau des émotions. Ça peut être une solution, effectivement. Mais ça ne marche pas à tous les coups et comme on l'a dit aussi, ces techniques-là restent encore assez nouvelles en France et commencent seulement à se développer. Donc, ce n'est pas toujours évident, effectivement. Parfois, quand on a l'aval du médecin, lorsque c'est présenté par le médecin dans un premier temps, ça permet peut-être parfois d'avoir un peu plus d'ouverture de la part du patient pour appréhender ces techniques-là. Mm-hmm. Voilà. Alors, ensuite, comment aider une personne hémiplégique avec un bras légèrement valide, difficile à mobiliser? Alors, l'intérêt de l'EFT aussi réside dans le fait que, alors je ne sais pas si vous imaginiez possible de pratiquer l'EFT sur cette personne-là. Si cette personne-là accepte, vous pouvez essayer, vous, de lui faire des stimulations vous-même. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser l'autre bras, hein, même si tout en demandant forcément l'autorisation. Mais cette personne-là doit avoir peut-être plus de sensibilité au niveau de son autre bras, peut-être. Ça peut faciliter, pourquoi pas. Voilà. Donc, toujours avec beaucoup de respect, proposer peut-être de faire les stimulations à sa place.
Oui. Ça peut être possible en demandant l'autorisation, bien sûr.
Oui. Ouais, parce que ça reste quand même aussi une technique où il est possible aussi d'être vraiment dans le contact. Alors tout le monde ne l'accepte pas et c'est pas forcément une évidence pour tout le monde d'accepter de recevoir des stimulations.
Oui, tout à fait. Et un bon début peut être déjà de stimuler les poings sur les doigts.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est à peine plus que tenir la main d'une personne malade, qui est quand même assez logique et admis, je dirais.
Oui, 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 tout à fait. Alors, j'essaie de lire en même temps les questions.
Oui, c'est pas évident
non plus de faire.
Alors, on voit des retours de plusieurs personnes qui disent qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas fait un deuil d'une personne partie et que, apparemment, rien que cette petite démonstration a aidé, déjà pour cette prise de conscience et pour soulager le deuil.
Eh ben, c'est formidable. Donc, à peaufiner si besoin.
Bien sûr. Continuez.
Alors, si tu en vois, hein, toi certaine, n'hésite pas à m'en proposer, Maria.
Oui, Véro nous parle de la difficulté de mettre des phrases sur les émotions.
Oui, alors c'est pas simple. Après, l'intérêt aussi de l'EFT, c'est aussi de savoir que du moment où on est vraiment connecté à ses ressentis, parfois, il peut être juste suffisant dans un premier temps de stimuler en étant juste connecté même aux sensations du corps ou à des pensées particulières. Et parfois, ce n'est pas forcément nécessaire et encore moins dans un premier temps de poser des mots sur les émotions. C'est loin d'être simple aussi, hein. C'est très loin d'être simple. Mais du moment où vous sentez que vous êtes bien là en connexion avec une souffrance, une difficulté, déjà faire quelques rondes sur ces sensations-là peut apporter quelque chose d'intéressant.
Merci Béatrice. Alors, une autre question, c'est Anne qui pose la question. Je suis cadre de santé. Pensez-vous un jour que nous puissions présenter cette technique au IFSI, aux infirmières, j'imagine.
Aux infirmières. Alors, par rapport à mon expérience, je trouve que le personnel soignant et paramédical est de plus en plus ouvert et est vraiment plutôt preneur d'outils de gestion émotionnelle. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit à ce propos et je pense qu'on n'est vraiment pas loin de faire passer cet apprentissage, ces techniques comme l'EFT en mode, on va dire, programme scolaire. Oui, vraiment, je trouve que les infirmières sont très, très ouvertes et demandeuses de ces pratiques. Elles y voient rapidement une différence dans leur quotidien et c'est vraiment ça de devient très confortable d'utiliser cela.
Oui, tout à fait. Il y a Véro, Axel qui pose une question. Est-ce possible de faire à distance pour des personnes jeunes atteintes d'un cancer du pancréas et qui refusent toute aide? Alors,
oui, on voit plusieurs questions dans ce sens. Est-ce que je peux aider ma mère? Est-ce que je peux aider mon frère qui ne veut pas en entendre parler?
Il y a une conférencière qui m'a abordé le sujet de l'EFT à distance.
Françoise Delvaux, samedi soir, je crois. Non, dimanche.
Mais est-ce que toi, tu pourrais nous dire ta vision par rapport à ça?
Alors, ma vision qui n'est que la mienne, hein, sait qu'on peut avoir apporté des choses en faisant de l'EFT sur nous, en ayant l'intention de faire du bien à l'autre, avec de bonnes intentions, tout simplement, rien que des bonnes intentions en soi, c'est déjà quelque chose de formidable et je pense d'utile et efficace. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, encore une fois, moi, je suis très dans cette valeur de respect et si une personne ne souhaite pas recevoir quelque chose, peut-être qu'à un moment donné, il y a des limites à ce propos. Mais pourquoi pas essayer tant qu'on reste dans des bonnes intentions et qu'on n'est pas dans une idée de faire violence, tout reste possible. Maintenant, il faut peut-être s'interroger aussi sur vos propres difficultés à gérer cette situation-là, et peut-être que vous souhaitez à tout prix aider cette personne et lui permettre de se libérer ou même de faire tout ce qu'elle peut faire pour se guérir, parce que vous avez peut-être beaucoup de mal émotionnellement à gérer ce qui est en train de se passer et peut-être même des sentiments d'impuissance ou de culpabilité. Donc là, par contre, ça peut être intéressant que vous fassiez déjà sur vous-même quelques rondes pour pouvoir justement vous apaiser vous et voir ensuite qu'est-ce qu'il en reste de votre volonté à tout prix de pratiquer l'EFT pour cette personne-là qui le refuse.
Merci de le rappeler encore une fois, Yvette. C'est vrai que c'est rappelé à chaque fois qu'on nous pose ces questions sur notre vouloir guérir quelqu'un, soigner quelqu'un, soulager quelqu'un et tout ça.
Alors, j'ai une cousine qui va partir en soins palliatifs demain, voilà. Alors qu'elle était juste là, sereine, confiante en la vie, et malgré toutes ses souffrances, il a suffi que l'oncologue lui dise qu'il n'y avait plus rien à faire, pas même la chimio, pour qu'elle soit à présent terrorisée. Alors oui, ça c'est très important aussi à souligner, le pouvoir du discours médical. Et ça c'est quelque chose qui peut être d'une extrême violence. Oui, c'est vrai qu'il y a certains médecins, comme je le disais aussi, qui ne sont pas forcément très psychologues. Et nous, en tant que patients, parfois, on a tendance à prendre pour parole d'évangile un discours médical. Et ça rentre très très souvent en mode conviction. Et effectivement, il est tout à fait logique qu'elle puisse, à cette heure-ci, ne voir plus que ça et que toutes les portes se soient fermées pour elle. Donc, ça peut être très, très violent. Donc, là, on est dans la stratégie de traitement des convictions avec l'EFT. Donc, même si depuis que le médecin m'a dit cela, je suis convaincue moi-même que c'est la fin pour moi, qu'il n'y a plus rien à faire, que je suis terrorisée et que ça me fait horriblement souffrir dans mon corps et dans mes tripes, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, par exemple. Il est peut-être intéressant de redescendre ne serait-ce que cette parole médicale à une intervention on va dire, plutôt à une information parmi d'autres, oui. Plutôt qu'à une conviction qui réduit du coup le champ des possibilités à peu.
Oui. Il y a une autre question de Soham. Je suis thérapeute. Comment proposer l'EFT à un patient en fin de vie s'il n'est pas lui-même demandeur ? Il est dans d'autres préoccupations.
Qui est dans d'autres préoccupations ? Alors, comme quoi, par exemple ? Ça aurait été intéressant de savoir pourquoi, parce que peut-être qu'on aurait pu...
Il n'est pas demandeur d'EFT parce qu'il est préoccupé par autre chose. C'est comme ça que je comprends la question.
Oui.
D'accord. Mais après, justement, ça dépend aussi de ses préoccupations, parce qu'on aurait pu aussi en passer par le biais de ses préoccupations pour introduire, éventuellement créer un besoin par rapport à l'EFT. Ça dépend.
Voilà, donc là,
il faudrait peut-être pas présenter l'EFT comme on peut le présenter de façon classique, comme du traitement émotionnel, mais plutôt vraiment complètement se centrer sur la réalité du patient et en passer par ses besoins pour pouvoir créer le besoin d'utiliser et l'intérêt surtout d'utiliser la technique EFT. Allô?
Oui. Très bien.
Je regarde le chat et j'essaie de te trouver, de trier les questions puisque c'est vrai que ça défile assez vite.
Alors, combien de séances? Est-ce que vous allez vite? Est-ce que ça prend du temps? Je crois connaître la réponse, mais voilà.
Oui, s'il y avait une règle
dans la réponse technique, c'est ça dépend.
Voilà, ça dépend. Oui, non, il n'y a vraiment pas de règle. Oui, mais oui. Comment atténuer la peur de la douleur, la peur d'avoir mal suite à un traitement ou la peur des traitements secondaires? Alors, il faut déjà peut-être prendre un temps, alors là, un peu comme toujours quand même, mais pour vraiment spécifier où se trouve vraiment la peur, parce que la peur de la douleur, ça peut rester encore assez flou. Il faut vraiment visiter tout ce qui est de l'ordre des émotions autour de la douleur, qu'est-ce qui est autour des croyances, des convictions autour de la douleur, savoir quelles images mentales il y a autour de la douleur pour pouvoir avoir une action encore plus fine et efficace. Voilà. Et il y avait une autre question, je la retrouve plus sur le traitement de la douleur. Alors, c'était où ? Je ne sais plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi au niveau du traitement de la douleur avec l'EFT, on va dire, on va souvent utiliser une stratégie un petit peu particulière parce qu'on ne va pas forcément se contenter de nettoyer la douleur du présent parce qu'on sait maintenant que la douleur du présent, elle est composée de différentes choses. Alors évidemment, il y a la composition de la douleur émotionnelle rattachée à la douleur physique. Donc bien évidemment, il va falloir s'y attarder dans le travail de nettoyage. Mais aussi, il faut considérer, on va dire, la douleur du présent comme décomposée en trois parties. On sait que la douleur du présent est chargée d'un tiers de la mémoire des douleurs du passé et d'un tiers des projections du futur. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur chronique, qui va par exemple l'estimer à 9 sur 10, en fait, si vous arrivez à faire un nettoyage de toutes les mémoires de toutes ces expériences de vie du passé où il a été douloureux et toutes les émotions qui en étaient rattachées, bien entendu, vous arrivez déjà à une sensation dans le présent, en général autour de 6 sur 10. Et si après vous travaillez au niveau de ces futurisations, forcément si la personne a été douloureuse dans le passé, si elle l'est encore de façon chronique dans le présent, il y a de fortes chances pour que son psychisme, par automatisme et conditionnement, se dise bah forcément dans 2 semaines ce sera pareil, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc toutes ces pensées, il va falloir aussi les nettoyer, les désactiver, et on va se retrouver déjà avec une douleur dans le présent qui sera autour, en général, bien sûr, de 3 sur 10. Donc, c'est déjà, par rapport à 9 sur 10, quand même réellement plus confortable. Donc, après, on travaille sur les émotions par rapport à ce qui reste maintenant. Et il peut être intéressant aussi d'aller rechercher au moment où les douleurs ont été créées, ou au moment où la maladie est parvenue, même dans l'année ou les 2 ans précédentes, pour voir toutes les expériences de vie autour de cela, qu'on y voit des liens plus ou moins directement, plus ou moins consciemment, c'est pas grave, mais aller désactiver aussi et libérer de ces mauvaises expériences dans ces mois ou années autour de l'apparition de ces symptômes. Et là, on arrive en général à quelque chose au niveau du traitement de la douleur d'assez intéressant et efficace.
D'accord.
Ok, quoi d'autre ?
Par rapport à la douleur, Yvette, tu as eu des expériences en traitement de douleur en milieu hospitalier ?
Oui, alors travailler en soins palliatifs, c'est presque du quotidien.
Oui.
En général, même s'il n'y a pas de protocole, bien évidemment, mais j'essaie de prêter attention à l'ensemble des points que j'ai pu spécifier juste avant. Maintenant, les résultats sont aussi variables, hein, bien entendu. Mais ça reste, l'EFT reste en tout cas, avec l'hypnose, enfin concernant ma pratique, deux outils que je vais vraiment associer pour un maximum d'efficacité. Et c'est vrai que l'EFT dans le traitement de la douleur, je n'ai pas précisé juste avant, mais pas suffisamment en tout cas, mais peut vraiment permettre de désactiver des convictions, comme je disais pendant la conférence, des convictions, forcément quand on est malade, quand on a un cancer, on va souffrir horriblement, ou ce genre de choses, ou des souffrances liées à la chimiothérapie. Ou même, là je dépasse un peu le domaine de la douleur, mais en parlant de chimiothérapie, ça me fait penser aussi à des convictions assez classiques par rapport aux effets secondaires de la chimiothérapie, ou même de la morphine. Et oui, c'est assez flagrant de voir une personne qui est convaincue qu'avec l'introduction de la morphine, elle va être dans un état épouvantable avec des délires, des hallucinations, des pertes de conscience et même des nausées. Si on la dégage pas de cette programmation, on va dire, vous pouvez être quasiment certain que vous allez retrouver très rapidement ces effets secondaires-là chez la personne, alors que on met toutes les chances de notre côté pour lui épargner cela si on évacue cette conviction avant l'introduction de la molécule de morphine. Voilà.
Oui, tout à fait, parce que l'appréhension de la douleur ou d'effets secondaires contribue déjà à les mettre en place.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus? Il y a Fatih qui a posé la question, peut-on associer l'EFT avec l'hypnose? Ça, c'était avant justement que tu, avant que tu ne répondes, que tu utilisais l'EFT et l'hypnose.
Oui.
Comment tu as dit les deux?
Comment ça se complète?
Comment ça se complète?
Alors, en même temps, l'EFT, même si c'est pas forcément flagrant au départ, mais souvent on se rend compte que au fur et à mesure de la séance, le cerveau modifie ses ondes cérébrales et on se retrouve dans des états qui sont de toute façon modifiés, des états hypnotiques. Hein. Les ondes alpha se ralentissent, la personne est au fur et à mesure en plus qu'on l'apaise est de plus en plus calme. Se connecte à beaucoup plus de ses capacités corticales, etc. Donc, on peut retrouver aussi une sorte d'hyperconcentration qu'on peut retrouver dans l'état hypnotique. Donc, il y a déjà des similitudes. En plus, au niveau des techniques, alors comment j'associe ça dans, bah, par exemple, prenons le travail de deuil. Ce qui peut arriver souvent, c'est de commencer à désactiver des images douloureuse, difficile, liée à la maladie, des émotions, etc., etc. Et au bout d'un moment, quand la personne est émotionnellement apaisée, et au niveau de son corps aussi, et au niveau de ses pensées, j'enchaîne souvent avec, pour ceux qui connaissent, la technique de deuil en hypnose. Ça permet vraiment, du coup, de laisser partir la personne, en ayant vraiment l'impression, à lui donner l'autorisation de lui dire vraiment tout ce qu'elle a sur le cœur, de lui donner tout l'amour qu'elle a besoin de lui donner avant de la laisser partir. Et aussi, souvent, les personnes endeuillées ont besoin aussi de donner leur pardon à la personne qui est partie, de les avoir laissés ou abandonnés. Ça peut faire partie aussi d'une étape. Et après, les personnes laissent partir tranquillement, de plus en plus loin, en direction de l'avenir de la personne qui est décédée, et jusqu'à ce que s'ouvre à leurs yeux un horizon éclairci et un mieux-être. Mmh. Voilà.
Je comprends. Il y a Aline qui nous pose une autre question, qui te pose une autre question. Avez-vous également observé une hypersensibilité des poings, même seulement en les caressant tout doucement?
Ça peut arriver dans certaines maladies, et d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a aussi certaines précautions parfois à prendre. Vous savez que les personnes qui ont une chimiothérapie en cours ont souvent un pack au-dessus de la poitrine où on va injecter justement tous les produits. Donc là, il faut être aussi très vigilant, parce que l'objectif, c'est de faire du bien et pas de mal. Donc il ne faut pas hésiter non plus à demander l'autorisation médicale, hein, parce qu'il y a certains points, pourquoi pas, qui peuvent être inadaptés ou source de souffrance. Après, si on y va vraiment tout en douceur, toujours avec des demandes d'autorisation et qu'on suit vraiment et qu'on autorise le patient à exprimer vraiment ses ressentis, en général, ça permet de s'adapter et de faire plus de bien qu'autre chose, heureusement. Mais toujours vigilance, parce qu'il y a, suivant certaines maladies, quand même des zones où il faut peut-être mieux éviter. Hein. S'il y a un nodule à un certain endroit, c'est pas forcément le meilleur endroit à stimuler, bien entendu.
Mais pour la plupart des points, on a déjà les deux côtés. Et puis si dans la ronde, on est obligé d'exclure un ou deux points, il y aura quand même un résultat, je pense.
Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais ça reste quand même une technique vraiment efficace, et les points de stimulation ne sont pas anodins, d'où l'efficacité de l'EFT. Donc, il faut vraiment aussi réfléchir.
Oui.
Pas pratiquer bêtement l'EFT, voilà.
Oui, oui, tout à fait. Et la prudence et demander les autorisations, comme tu dis. Je cherche d'autres questions. Alors, je vois beaucoup de commentaires dans le chat, mais pas vraiment des questions. Si vous voulez vraiment poser des questions spécifiques,
c'est le moment, parce que c'est maintenant que vous avez Yvette sous la main.
C'est ça. C'est un peu entre eux.
Alors que le kit de démarrage est là pour les questions techniques de l'EFT.
Voilà.
Vous avez toutes reçues en cadeau à l'inscription. Et concernant les où trouver un praticien qui pratique près de chez moi, on va mettre en place un forum.
Oui, l'année dernière, on a mis en place un forum sur un blog qui n'est pas laissé à l'abandon, mais presque, et que j'avais ouvert. Et sur ce blog, il y a une partie forum. Donc, je vais raccorder les forums sur le congrès de 2013 à celui de 2014. Comme ça, vous pourrez vous dire « Ah, moi, je suis en Corrèze, moi, je suis en Lozère, moi, je suis à Paris. » Et vous pourrez vous réunir pour tapoter en groupe et entre vous. Je mettrai ça tout à l'heure dans le chat et ça sera dans un endroit spécifique du site. Donc, pour que vous puissiez échanger vos adresses e-mail et vos numéros de téléphone si vous voulez.
Et ça évitera de monopoliser le chat avec ce genre de demandes qui sont très importantes, certes, mais pendant ce moment privilégié où nous avons accès à Yvette et aux autres experts, profitons-en pour poser des questions en rapport avec le sujet.
Yvette, j'ai une question pour toi.
Oui, dis-moi.
Pourquoi on tapote ces points-là en EFT?
Pourquoi on tapote l'ensemble de ces points?
Oui. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'EFT qui pose cette question. Et qui
d'accord. Et tu disais à l'instant qu'ils ne sont pas anodins. Effectivement, ils sont choisis pour une bonne raison, n'est-ce pas?
Voilà, donc ils sont tous rattachés à des émotions particulières, même à des, on va dire, des réactions chimiques particulières, comme le taux de cortisol, des émotions comme la colère, la honte. Bon, après, je pense que qu'il y a... Je ne sais pas sur le kit de préparation de découverte de l'EFT, je ne l'ai pas regardé. Il y a peut-être des...
Il y a les emplacements des points, mais nous ne sommes pas rentrés dans les détails des méridiens.
L'année dernière,
c'est vraiment une découverte de l'EFT.
L'année dernière, Yves nous avait donné un document qu'on pourra mettre dans la page du kit de démarrage où justement il y avait des émotions associées aux points. En tout cas, ces points, ce sont des points d'acupuncture.
Oui, on va dire que c'est comme de l'acupression. Effectivement, c'est l'intérêt de pratiquer l'acupuncture juste avec les doigts.
Oui. Et l'intérêt, comme quelqu'un vient de le préciser dans le chat, c'est que nous n'avons pas besoin d'être acupuncteurs pour les utiliser. Et ça fait partie des forces de l'EFT. Mais derrière ça, il y a toute une séance de ces points, c'est sûr.
Bien sûr. Et j'avais une question un petit peu, donc je pense aussi d'une personne qui ne connaît pas trop l'EFT, mais donc dans les phrases, pourquoi ne dit-on pas de phrases positives? Alors, on peut éventuellement dire sur la fin, même des phrases positives, commencer à instaurer un petit peu un doute entre le négatif et le positif, mais pas dans le sens de suggérer le mieux-être, mais parce qu'on sent que la personne est de plus en plus connectée avec la possibilité de penser ou de réfléchir autrement. L'intérêt de se focaliser dans le négatif, bon, Jean-Michel en avait parlé un peu hier déjà, mais c'est vraiment de créer l'émotion négative associée à un événement, par exemple, et pour que ça active, on va dire, le système sympathique, le système nerveux autonome sympathique. Et avec les points de stimulation, ça permet au contraire d'activer en même temps donc le système nerveux parasympathique, donc qui est le frein à tout ça, pour que du coup tout se restabilise, que ça fasse une sorte de reset et qu'on reparte à zéro avec une meilleure connexion, des meilleurs ressentis autant au niveau du corps que de l'esprit. Mais vous retrouverez tout ça dans l'explication de Jean-Michel de la conférence d'hier.
Oui, tout à fait. En fait, il est vrai que on a 10 000 inscrits, je crois, à peu près, Maria.
Oui.
Et sur ces 10 000 personnes qui écoutent le congrès, c'est vrai qu'on a de plus en plus de nouveaux qui arrivent à cette technique. Et donc, dans les chats, évidemment, on retrouve chaque soir des questions sur les bases de l'EFT. Et ils n'ont pas forcément écouté la conférence d'avant et tout ça. Alors, nous, on a la sensation qu'on se répète un peu, mais c'est important de revenir sur les bases un peu à chaque fois.
D'accord. Alors, une question justement particulièrement pour toi, Yvette, le pseudo Vocalise. Je suis formatrice en milieu hospitalier sur des thématiques comme la bientraitance. Bravo, la bientraitance, ça complète bien la maltraitance. Les enseignants sont démunis à introduire officiellement l'EFT en milieu hospitalier. Point d'interrogation. Est-ce reconnu ou en voie de reconnaissance?
Alors, j'ai pas entendu le début de la question, excuse-moi.
C'est une formatrice, on vient de te le coller dans ta fenêtre. Je suis formatrice en milieu hospitalier.
Et cette
personne, apparemment, hésite à en parler aux soignants. Est-ce que tu as des conseils? Comment présenter l'EFT au personnel soignant?
Alors, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est en voie tranquillement de reconnaissance, et c'est aussi pour ça qu'on est là tous ce soir aussi, c'est pour familiariser davantage tout le monde et faire connaître cette technique-là. Donc, oui, je pense que vraiment ça va venir petit à petit, à force de rassurer aussi les personnes. Alors, c'est pas forcément évident, parce que les soignants n'ont peut-être même pas parfois idée qu'elles peuvent avoir sous la main un outil vraiment efficace pour gérer leurs difficultés, leurs souffrances, leur mal-être. Donc, souvent, les soignants ont l'habitude plutôt d'utiliser des stratégies qui sont habituelles, malheureusement, dans notre société, c'est-à-dire prendre sur soi, contenir tout, relativiser, ou espérer que demain matin, au réveil, ça ira mieux. Donc, rien que d'essayer, dans un premier temps, de leur faire basculer au niveau de ce formatage, on va dire, de les faire basculer dans quelque chose avec plus de possibilités, et peut-être que je peux éventuellement ne pas être si soumis que ça à mes émotions, à mes souffrances, peut-être que je peux à un moment donné décider de ce que j'ai envie de ressentir, de ce que j'ai besoin de ressentir ou pas. Ça, c'est déjà un premier pas. Donc déjà, il faut revisiter, on va dire, le formatage un peu socio-éducatif et culturel, et parallèlement, donc, expliquer la pratique de l'EFT. L'idéal, presque, c'est un exemple, hein, tout simplement. Si oui, quelqu'un peut se porter volontaire, je pense qu'on voit très rapidement, et déjà ça rassure, hein, on voit que tout va bien à la fin et que tout va bien mieux. Donc ça peut donner envie, tout simplement.
Tout à fait. Ouais. Et puis là, sur le congrès cette année, on a Bruno Stimetz qui est médecin et qui se sert de l'EFT et qui s'en sert en groupe. Et qui a un programme avec ça, donc les médecins petit à petit, moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouverture.
Oui, ça s'ouvre.
Il y a Laurent Hersin aussi qui travaille
en clinique
où il est psychologue clinicien également, et il s'en sert en milieu hospitalier, et on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune ouverture vis-à-vis de ces milieux-là à l'EFT. Petit à petit, ça s'ouvre.
Oui. Alors, toujours une question par rapport au corps médical. Comment le corps médical accueille-t-il une demande d'autorisation de tapoter, ou plus précisément l'EFT en général?
Oui.
Alors, moi, j'ai quand même cette chance-là d'être psychologue, donc j'ai quand même une certaine autonomie dans ma pratique, et j'ai par chance pas besoin de demander l'autorisation de pratiquer cette technique-là. Je suis assez libre dans le contenu de mes entretiens. Mm-hmm. Donc, maintenant, effectivement, si vous êtes, par exemple, thérapeute et que vous souhaitez intervenir de l'extérieur, si vous ne faites pas partie de l'hôpital, je pense qu'il y a des autorisations particulières, et ça peut devenir un peu plus compliqué, mais pas infaisable, hein, bien sûr.
Ouais. Non, et comme tu disais tout à l'heure, c'est bien de commencer par une démonstration.
Oui.
D'autant plus que il me semble que le personnel soignant est souvent assez stressé, voire peut avoir des douleurs liées à la tension et au surménage. Donc vous ne serez pas en panne de trouver des exemples à leur donner.
Oui.
Et la meilleure façon de présenter l'EFT, c'est toujours de commencer par la pratique, de montrer que ça marche. Après, on peut discourir.
Oui, je suis complètement d'accord.
Ouais. Oui, il y a Myriam d'ailleurs qui dit « Je suis soignante, mais exerce plus en milieu hospitalier. Cependant, je commence à m'en servir sur le plan personnel. » Donc, c'est vrai qu'on peut commencer toujours à travailler sur soi et petit à petit à essayer d'étendre cette pratique à l'extérieur.
Alors, une dernière question, parce que nous allons devoir passer au tirage au sort et ensuite fermer la salle. Anne 55 demande, est-ce que vous donnez des temps de limite afin d'éviter de fatiguer le patient? Et quel temps?
Alors là, c'est comme, je ferai presque la même réponse un peu que tout à l'heure. Il y a jamais de règles.
Ça
dépend, voilà. Effectivement, c'est là vraiment où il faut vraiment être centré sur le patient et pas sur nous, et puis pouvoir être vraiment dans une synchronisation qui nous permette aussi bah, d'avoir ces phénomènes de perception aussi qui nous permettent d'avoir une certaine justesse dans l'accompagnement, tout simplement. Et parfois, même une séance qui peut être très brève, de 2 ou 3 minutes, hein, parfois ça arrive, mais très éprouvante, même pour une personne qui a une maladie avancée, qui c'est ou pas d'ailleurs, ça peut être très rapidement fatigant. Donc toujours toujours veiller à cela, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Adaptez, écoutez votre patient, votre client, adaptez-vous. Mais c'est sûr que des personnes qui sont en fin de vie, vous n'allez pas leur faire une séance d'une heure. Hein.
C'est rare, oui. Effectivement. C'est rare.
Bon, mais merci beaucoup Yvette pour tout ce que tu as
fait. Grand avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute, pour vos questions. Voilà. C'est un agréable moment. Merci beaucoup.